matin, mes amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour une dernière heure sous le regard du Seigneur, à la fin d'une semaine où il a voulu nous parler à chacun de nous d'une façon précise, et nous voulons croire que nous avons entendu sa voix et que nous n'avons pas endurci nos cœurs. Et ce soir, qui est notre dernier soir pour plusieurs, nous voulons lui demander qu'il nous parle encore avec sa voix et que nous puissions entendre les paroles dont nous avons besoin. Ces paroles qui édifient, je le répète. Ces paroles qui exhortent et ces paroles qui consolent, car nous avons besoin de sa consolation. Père, nous élevons nos yeux vers toi et nous te bénissons parce que tu t'es révélé à nous. Et qu'en Jésus, nous sommes vraiment tes enfants. Et nous voudrions que tous ceux que nous connaissons, que tous ceux que nous rencontrons aient ce même privilège, puissent parler de leur Père des cieux, puissent proclamer qu'avec ce Père, ils n'ont plus de soucis. Car ce Père lui-même les aime. Et donne-nous de croire éperdument que tu nous aimes, non pas parce que tu vois quelque chose d'agréable ou de bon en nous, mais parce que tu trouves dans les perfections de Jésus le motif de nous aimer comme tu l'as aimé. Que ta grâce soit avec nous et que cette heure dans tes parvis vaille mieux que mille ailleurs. Amen. Dans cette soirée du 8 août, nous allons une fois encore nous laisser enseigner par les créatures que le Seigneur a faites, les animaux. Interroge les bêtes et elles t'instruiront, disait Job à ses amis. Si hier soir, nous avons reçu un enseignement en étudiant dans le sermon sur la montagne, la position qu'occupent les chiens et les pourceaux. Et si du sermon sur la montagne, nous avons examiné à travers toute la Bible la place qu'occupent ces deux animaux, le chien et le pourceau, qui figurent dans la liste des animaux impurs, ce soir, nous nous laisserons instruire par deux oiseaux. Le corbeau, lui-même un animal impur, et la colombe. La colombe, c'est le nom poétique que l'on donne aux pigeons. Et quand je parle du corbeau et de la colombe, je pense que dans votre mémoire surgit immédiatement la vision de l'arche de Noé, car ce sont les deux oiseaux, le corbeau et la colombe, qui sont nommés pour la première fois dans la Bible. Le corbeau est le premier nom d'oiseau que nous trouvons dans l'Écriture. Vient ensuite la colombe. Et si nous avions le temps d'examiner tous les passages de l'Écriture concernant le corbeau, il faudrait nous arrêter à 11 textes à travers toute la Bible et pour la colombe à 28 portions des Écritures, car la colombe est nommée 28 fois. Le corbeau fait partie de l'ordre des passereaux, ces oiseaux dont Jésus disait que pas un d'eux ne tombait en terre sans la volonté de notre Père des cieux. Et vous savez ce qu'il ajoutait, mes amis? Il ajoutait, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Et voyez-vous, c'est le Seigneur Jésus qui disait cela. Lui qui est la vérité, lui qui est la vie, lui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, il a affirmé que les cheveux de notre tête étaient tous comptés. Et il ajoutait, mais ne craignez pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Vous valez beaucoup plus que des oiseaux, a-t-il dit dans une autre occasion. Et puis, nous l'avons vu aussi un soir, vous valez beaucoup plus qu'une brebis. Un homme vaut plus qu'une brebis. Alors souvenez-vous que si les passereaux ne tombent pas en terre sans la volonté de notre Père des cieux, vous serez vous-même gardés. Pourquoi craindriez-vous une chute? Confiez-vous en celui qui a la puissance de vous garder sans que vous bronchiez et de vous faire paraître un jour devant lui, dans sa lumière, saint et irréprochable. C'est ce que lui ambitionne pour vous. Alors faites-lui confiance, et une fois encore, laissez-vous faire. C'est le seul effort qui vous est demandé. Abandonnez-vous. Matthieu 10, versets 29 à 31. C'est la citation que je viens de vous faire. Dans l'Écriture, le corbeau est mentionné à raison de son caractère, de ses mœurs et du rôle qui lui est dévolu. Et c'est comme ça qu'on apprend les leçons du corbeau. Je ne peux pas vous raconter l'histoire de la fontaine, mais enfin, l'Écriture, bien avant la fontaine, nous a donné des leçons par le corbeau. C'est donc le premier oiseau mentionné dans la Bible. Et tout de suite, donc, nous voyons cette arche de Noé. Le déluge a pris fin. L'arche qui a préservé Noé et sa famille, ainsi que les animaux purs et impurs, qui y sont entrés dans cette arche pour conserver les espèces. Cette arche descend progressivement, puis se pose sur ces montagnes d'Arménie, le mont Arara. Et alors Noé, qui ne peut pas sortir de l'arche sans la permission de Dieu, voudrait quand même bien savoir ce qui se passe sur la terre. Et que fait-il pour le savoir? Eh bien, il prend un corbeau. Et l'on sait que les navigateurs, autrefois, pour savoir si la terre était proche, employaient des oiseaux et étaient instruits par ces animaux. Avant que l'on découvre tous ces appareils, il y avait les oiseaux dont on savait se servir et qui donnait des renseignements très précis. Alors vous voyez ce corbeau dans le chapitre 8 de la Genèse. Il est dit qu'il allait et qu'il venait sur la terre. Il revenait vers l'arche, puis un jour, il n'est plus venu. Et qu'est-ce que Noé apprenait? Eh bien, évidemment, le corbeau étant un animal sauvage et carnassier qui se nourrissait de chair pourrie, trouvait sur cette terre des repas succulents, car tous les animaux avaient péri par le déluge, et non seulement des animaux, mais de la chair humaine. Et selon notre petit japonais qui, à Paris, avait vraiment le goût de manger une jeune fille, il semblerait que la chair humaine soit très bonne. Il a mis les meilleurs morceaux de la jeune fille, qui était une Hollandaise il n'y a pas si longtemps, c'est cette année que ça s'est passé, dans son frigidaire. Alors, vous vous rendez compte, les repas que ce corbeau pouvait faire après sa diète dans l'arche et quand même sa liberté un peu comprimée, eh bien, il s'en donnait à cœur joie. Il était seul. Et il se nourrissait. Et il grossissait. Et un jour, il n'est plus rentré. Mais Noé, alors, prendra un autre animal. Un animal pur. Et cette colombe. Oh, je vois ma Marie-Lise. Et en ce moment... Je ne sais pas qu'elle est une colombe, mais je la vois avec un vieux prêtre sur le mont Tabor, la montagne de la Transfiguration. Et le vieux prêtre, qui aimait beaucoup Marie-Lise, il est mort maintenant, avait une colombe sur son épaule, tu te souviens, ma fille? Et il mettait sur sa langue une petite graine. Et la colombe venait, sans lui blesser la langue, prendre la graine sur sa langue. Et il s'épanouissait, le bon prêtre, de voir cette petite colombe, si douce, si attentionnée, si tendre. La leçon de la colombe. Elle n'avait pas peur qu'il lui torde le cou. Il n'avait pas ses intentions. La colombe. Oui. Alors Noé, je le vois prendre la colombe et lui parler et caresser la colombe, car elle est très affectueuse et elle se laisse caresser, puis l'envoie en mission. Alors la colombe, elle revient vers Noé, car elle n'a pas pu trouver une seule place propre, pure, où poser son pied. La colombe est un animal si délicat et si pur, qu'il faut qu'elle trouve une place absolument sèche pour se poser. Alors, la colombe est revenue, et Noé, bon père, a tendu la main, et il la retira auprès de lui. C'est tellement beau, ces expressions. Chapitre 8 de la Genèse. La colombe, verset 11. Nous pouvons lire déjà au verset 9, n'est-ce pas? Quand il a lâché la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Voyez-vous, ça m'a toujours fait penser à ces jeunes vies et qui, au fond, sont retirés subitement de ce monde, comme si Dieu estimait que cette vie si pure ne pouvait pas rester sur une terre aussi souillée. Et alors, il reprend une jeune vie et elle retourne vers le Père. Soyez consolés, mes bien-aimés, vous qui avez peut-être perdu des êtres chers en pleine jeunesse. Mieux encore que Noé, le Père les a repris, les retirant de devant le mal, ce monde de souillure, ce monde de péché. Et maintenant, vous êtes parents d'enfants qui se trouvent auprès du Père des cieux. Lisez la Genèse, et déjà dans la Genèse, vous y trouverez de sublimes consolations. Noé tendit la main, il recueille la colombe dans l'arche auprès de lui. Puis, 7 jours plus tard, il envoie de nouveau la colombe qui revient. Verset 11, la colombe revint à lui sur le soir. Et qu'a-t-elle dans son bec, cette colombe? Une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Alors Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et cette feuille d'olivier si fraîche, c'était le symbole d'une nature nouvelle. C'était pas quelque chose d'ancien. Tout était renouvelé
sur la face de la terre et la colombe a porté ce rameau d'olivier et qui maintenant a été pris comme symbole de quoi? De la guerre, hein? De la paix. C'est le symbole de la paix. Mais vous voyez ces symboles qu'on a dans le monde, d'où les a-t-on? De l'Écriture sainte. C'est dans l'Écriture que nous trouvons cela. L'origine du rameau d'olivier, il est dans l'Écriture sainte. C'est cette histoire de Noé et de la colombe. Alors, il attend encore cet autre jour, et il lâche la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alors, Noé sait que maintenant, le déluge est totalement passé, et l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre, Noé ôte la couverture de l'arche, il regarde, et voici la surface de la terre avait séché. Eh bien, la colombe a donc su instruire Noé d'une chose capitale pour lui et les siens, comme aussi pour tous les autres animaux de l'arche. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Alors, revenons maintenant au corbeau. Le corbeau, c'est un animal donc sauvage qui trouve suffisamment de nourriture pour ne pas rentrer dans l'arche. C'est donc un animal impur, selon Lévitique 11, verset 15 et Deutéronome 14, verset 14. Nous apprenons qu'il se nourrit de chair pourrie qui lui communique une bonne odeur. C'est ça? Quand vous mangez de la chair pourrie, vous avez une bonne haleine? Non, le corbeau sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de corruption. Et je ne sais pas si vous avez déjà été près des corbeaux, mais si vous avez un odorat un peu fin, vous remarquerez que ça renifle. Alors, de quoi vous nourrissez-vous vous-même? Est-ce que vous êtes un corbeau? Oh, vous avez un beau plumage. Sans mentir, si votre plumage, si votre ramage ressemble à votre plumage, alors vous êtes un phénix. Mais, souvenez-vous de cela, le corbeau a une mauvaise odeur. Quelle est notre odeur? Vous êtes la bonne odeur de Christ. Odeur de vie ou odeur de mort. Mais d'après ce dont vous vous nourrissez. Quelle est votre nourriture? Quelle est votre nourriture? Et quel est votre séjour? Où les corbeaux nichent-ils? Eh bien, on apprend dans l'Écriture qu'ils habitent les torrents, les lieux sauvages. Et pour dire quelque chose de bien sur le corbeau, quelle est sa couleur? Noir. Mais d'un beau noir, d'un noir qui est tellement soyeux que la bien-aimée du Cantique des Cantiques compare les cheveux de son bien-aimé à un corbeau. C'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Mèche? Non. Sont flottants, noirs, comme celle d'un corbeau. Vous avez cela dans le Cantique des Cantiques. Alors, cette couleur noire, là dans le Cantique des Cantiques, parlant du bien-aimé, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Chapitre 5, verset 11, nous parle de l'éternelle jeunesse de notre Seigneur, de notre bien-aimé. Oui, voilà que je peux penser quand je vois le corbeau qui passe, les boucles de mon bien-aimé, la jeunesse éternelle du Seigneur. Il ne vieillit pas, moi j'ai blanchi, le Seigneur ne vieillit pas, il est toujours jeune. Quant à sa nourriture, encore, j'ai parlé de ce qu'il pouvait manger, mais il y a un autre sens à tout cela. Dans le chapitre 38 du livre de Job, Dieu lui-même, parlant au patriarche, dira que c'est lui qui donne la nourriture au corbeau. 38, verset 41, si je ne m'abuse. Non. Non, parce qu'il a... Hein? 39, hein? Verset 3, oui, parce qu'il y a une autre numérotation ici, et j'avais pris ça dans une Bible catholique. Qui prépare, chapitre 39, verset 3 dans nos Bibles protestantes, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Eh bien oui, Dieu nous dit qu'il prépare au corbeau et aux petits du corbeau sa pâture. Et il ne vous préparerait pas la nourriture aussi dont vous avez besoin. Souvenez-vous du Seigneur quand il invitait ses disciples qui avaient travaillé toute la nuit sans avoir rien pris et qu'il les invite à venir dîner sur la grève du lac de Tibériade. Eh bien, on trouve un repas tout préparé. Venez manger, venez dîner, dit Jésus. Et c'est lui qui sert le repas et qui a trouvé des poissons cuits, qu'il a cuits sur la braise pour ses disciples. Alors, ce Jésus, ce Seigneur, ce Créateur, qui s'occupe de nourrir le corbeau et ses petits, comment ne vous nourrirait-il pas, gens de petite foi? Dieu pourvoit donc à la nourriture des petits du corbeau. Prenez encore le psaume 147. C'est un passage qui m'a souvent édifié. Psaume 147, puisque nous recherchons les leçons que nous pouvons trouver au sujet de ces animaux. Psaume 147, verset 9. C'est toujours le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Voyez comme Dieu aime les petits quand il crie. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Alors, si Dieu écoute les cris des petits corbeaux, combien plus va-t-il écouter les cris de vos enfants? Dieu pourvoit à leur nourriture. Par qui? Par qui les petits du corbeau sont-ils nourris? Eh bien, la source, c'est Dieu, mais qui Dieu emploie-t-il pour nourrir les petits du corbeau? Leurs parents. À leurs parents, apprenez à nourrir vos enfants. Apprenons à nourrir nos enfants. Et c'est très frappant, parce que nous savons par l'observation que les petits du corbeau sont les êtres les plus impatients de tous les oiseaux. C'est quelque chose d'impossible. Ils crient, ils sont d'une exigence terrible, plus que tous les autres petits oiseaux. Et savez-vous quel est le plat préféré des petits du corbeau d'après l'observation? Que croyez-vous? Qu'est-ce qu'ils aiment? Les yeux. L'œil, c'est leur régal. Se nourrir d'un œil qu'ils ont pu arracher à une charogne. Et quand la mère ou le père corbeau arrive avec un œil, c'est un festin succulent pour les petits du corbeau. Ils aiment les yeux. Alors attention, attention, attention. Ouvrez vos Bibles dans Proverbe 30, verset 17. Vous les jeunes, qui avez encore des parents, un père et une mère, apprenez à les respecter si vous ne voulez pas qu'un grand malheur vous arrive. Quand vous passerez par une certaine vallée. Verset 17 du chapitre 30 des Proverbes. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ça c'est grave. Proverbe 30, verset 17. Je me souviens de cela, d'une application tout à fait réelle. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Eh bien, attention au corbeau. Voilà, ça rappellerait aux enfants le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Et alors, le dernier récit qui remonte dans votre mémoire quand on parle du corbeau, si le premier récit c'était l'arche de Noé, le dernier qui vient à votre esprit, c'est quoi? C'est Élie, vous l'avez trouvé. Élie, le prophète, au chapitre 17, du premier livre des rois, après avoir parlé au roi impie Akab, se retire sur l'ordre du Seigneur au torrent du Kérit, et là, caché dans le creux de ce torrent, Dieu lui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et moi, je trouve ça admirable. Vous n'y croyez peut-être pas, eh bien moi j'y crois. Et je trouve que c'est merveilleux de voir que même sur un animal impur, sur un animal vorace, Dieu a tout son pouvoir. Et que quand il commande à un corbeau d'aller nourrir Élie et qu'il le charge de lui amener de la viande, le corbeau ne la mange pas. Et ce n'était pas de la charogne. La viande que Dieu donnait à Élie et qui était transportée par les corbeaux lui arrivait et c'était impeccable. Élie n'est pas mort de la viande que le Seigneur lui fournissait, mais par le moyen des corbeaux. Vous avez trouvé le texte au chapitre 17 de Versets 3 et 4. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent, du Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est merveilleux. Dieu qui a tout pouvoir sur les corbeaux. Et les corbeaux obéissent à Dieu. Et nous, qui sommes ses enfants, nous ne saurions pas obéir. Et nous ne croirions pas que Dieu peut nous empêcher de manger de la souillure. Et nous ne croirions pas que Dieu, malgré que nous sentons notre impureté, notre misère, malgré que nous sommes tout noirs comme les corbeaux, eh bien ces êtres tout noirs que nous sommes, le Seigneur peut les employer pour nourrir des âmes. Est-ce que vous le croyez? Interrogez les bêtes, elles vous instruiront. Et ces corbeaux, ils étaient à l'heure. Et nous ne sommes jamais à l'heure. Élie n'a jamais eu besoin d'entendre. Il pouvait prendre l'heure sur les corbeaux. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il était gâté. Hein? Et il buvait de l'eau du torrent. Alors, Je le sais, les corbeaux d'Élie sont morts. Mais le Dieu d'Élie, il n'est pas mort. Et si nous étions dans la situation d'Élie, mais avec cette obéissance et cette confiance éperdue, nous verrions encore des miracles. Passons maintenant à la colombe. Nous revenons forcément à l'arche de Noé. Je n'ai pas besoin de m'arrêter sur la colombe dans l'arche de Noé, puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Mais il y a plusieurs sortes de colombes, et nous les mettons toutes ensemble, et on peut mettre avec la colombe la tourterelle, qui est considérée comme une colombe aussi. Et qu'est-ce que nous apprenons au sujet de la tourterelle? Jérémie, chapitre 8, verset 31, je crois vous l'avoir déjà cité en passant, elle est mentionnée, la tourterelle, au verset 7 du chapitre 8, avec la cigogne qui connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà un oiseau qui connaît le temps de son arrivée. Et alors, passez dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, parce que c'est là qu'il est parlé beaucoup des tourterelles et des colombes. Chapitre 2 du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé, dit la bien-aimée du Cantique des Cantiques, verset 10, parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. C'est tellement beau, ça. Après l'hiver, eh bien voilà, tout renaît, et qu'est-ce qui se produit? Selon Jérémie 8, la tourterelle est de retour. Dans ce printemps où tout redevient fait, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Et le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. La tourterelle connaît le temps où elle doit venir. Elle connaît aussi le temps de chanter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour pleurer. Mais quand c'est le temps de chanter, chantons. Et chantons comme la tourterelle. Chantons en harmonie avec la création tout entière. Et alors, si vous voulez faire vous-même cette étude au sujet des colombes, de tout ce que vous pouvez apprendre dans l'Écriture, vous verrez au psaume 55, verset 7, que la tourterelle, ou la colombe, disons la colombe, a un vol puissant et rapide. Psaume 55, verset 7e. C'est David qui parle et qui dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais du repos. Si j'avais les ailes de la colombe. » Donc la colombe est réputée pour son vol puissant et rapide. Est-ce que nous sommes nous aussi enseignés pour courir la course? Quant à la beauté de ses plumes, prenez le psaume 68 qui nous montre un peuple au repos après avoir vaincu l'ennemi, et au verset 14e, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. La beauté de ses
plume,
et par le psalmiste. Mais dans le Cantique des Cantiques, quand nous y retournons, qu'est-ce que nous voyons qu'on exalte au sujet de la colombe? C'est surtout ses yeux. Ses yeux. À plusieurs reprises, dans le Cantique des Cantiques, il est parlé des yeux de la colombe. Et c'est quelque chose de très beau. Parce que la bien-aimée, vous lirez le Cantique des Cantiques pour vous-même, la bien-aimée dit deux fois que le bien-aimé dit deux fois que sa bien-aimée a les yeux d'une colombe. Et la bien-aimée dit une fois que son bien-aimé a les yeux d'une colombe. Alors attention, vous les hommes. Nous avons qu'une fois cette mention que nous avons des yeux de colombe. Parce que vous savez très bien nos yeux comme ils sont. Et ce n'est pas toujours des yeux de colombe quand on regarde une femme. C'est Jésus qui l'a dit. L'homme, quand il regarde une femme, il l'a tout de suite convoitée dans son cœur. Alors, on n'a qu'une fois les yeux de la colombe. Mais, alors, la femme, elle peut dire, le mari peut dire de la femme, deux fois, tu as les yeux d'une colombe. La colombe aussi court un risque. Elle risque d'être prise au piège. Vous lirez Osée, chapitre 7, verset 11. Parce que son intelligence n'est pas très, très développée. Elle est tendre. Elle est affectueuse. Mais je ne fais pas la comparaison. Je ne dis pas que les femmes ont une intelligence moins développée. Mais je n'ai pas voulu dire ça. Mais il faut veiller pour que la colombe ne tombe pas dans les pièges. Bien sûr, piège toujours que les hommes lui tendent. Alors, la colombe doit veiller à ces pièges à loups que sont les hommes. Osée 7, verset 11. Puis, le roucoulement de la colombe, ses gémissements ont quelque chose de si doux et de si plaintif et qu'il semble exprimer la douleur. Et c'est pourquoi Ézéchias, dans sa maladie, dit, après avoir été guéri, mais parlant de ces moments où il était sur son lit de douleur et qu'il pensait mourir, au chapitre 38 d'Ésaïe, verset 14, il dit que pendant sa maladie, il gémissait comme une colombe. Il était dans la douleur et il gémissait comme une colombe. Et dans l'écriture et aussi dans l'histoire, on a toujours vu le peuple martyr symbolisé par la colombe. La colombe symbolise le martyr à cause de son roucoulement plaintif. Quant à leur nid, les colombes le font où? Dans le creux du rocher, dans le creux du rocher. Elles sont comme cachées au creux du rocher, parce que là, elles sont préservées des attaques de l'ennemi, le nid de la colombe. Puissiez-vous, mes sœurs, être de ces colombes qui se cachent dans le creux du rocher, et que vous puissiez un jour entendre la voix d'un bien-aimé vous dire: montre-moi ton visage. Souvent, les jeunes filles se montrent trop si elles se laissaient chercher. Si elles avaient cette vie cachée, le Seigneur leur enverrait aussi ce bien-aimé qui dirait à cette colombe: laisse-moi voir ton visage. Si vous vous laissez enseigner, vous verrez des réponses extraordinaire. Restez dans la fonte du rocher. Restez, mes sœurs, cachés dans le Christ. Et alors, ces êtres qui sont cachés dans le Christ, des hommes les recherchent. Et s'ils ne se marient pas, bien souvent, c'est parce qu'on leur a fait la chasse. Ce n'étaient pas des colombes, c'était des éperviers. «
laissons-nous convaincre par la parole de Dieu. Votre nid dans le rocher. Puis, sa simplicité est reconnue par le Seigneur Jésus dans Matthieu. Matthieu 10, verset 16. Soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Et une autre chose qui va vous donner une idée de ce qu'est la colombe, c'est le seul oiseau qui était accepté. Pourquoi ? Dans l'Ancien Testament, pour le sacrifice. De tous les oiseaux, c'est la colombe, ou le pigeon, n'est-ce pas, qui était accepté pour le sacrifice, seulement en holocauste. Et ainsi, l'homme qui n'avait pas de grands moyens, c'est-à-dire le pauvre, avait la possibilité d'apporter un sacrifice. Et vous savez que ces deux tourterelles et deux pigeons, qui ont été offerts par Joseph et Marie, lorsqu'ils se sont présentés au temple avec le Seigneur Jésus, c'est le sacrifice du pauvre qui a été offert à la purification de Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Et ainsi, si vous repassez tout ce que l'Écriture dit sur la colombe en partant de l'arche de Noé, vous apprendrez que la colombe est l'image de l'épouse. Attention, je m'en vais de nouveau me faire fusiller. Par sa docilité. Elle est paulinienne, la colombe. Par sa beauté, par sa fidélité. Relisez le cantique des cantiques. Elle vit donc dans le creux du rocher, loin de tout regard et de toute atteinte, en ne songeant qu'à son compagnon. Les naturalistes qui les ont observés ont écrit des choses extraordinaires sur la colombe. Ses yeux sont purs, ils sont beaux, ils sont vifs, ils sont chastes. La colombe ne regarde que son conjoint et ne les jette sur aucun autre. Voilà ce qu'on a pu observer. Relisez encore une fois le cantique des cantiques. Le mâle et la femelle s'unissent ensemble à peu près indissolublement. On n'a pas vu de divorce chez les colombes. Et elles paraissent avoir, l'un pour l'autre, une vive et jalouse affection. Et ce qui est touchant, c'est que les colombes partagent en commun l'incubation et l'éducation des petits, qui sont ordinairement au nombre de deux, une ou deux fois par an. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand je dis que le couple partage l'incubation, la colombe femelle est enceinte. Bon, elle a pondu son œuf. Et le mâle lui dit, eh bien maintenant, moi je pars en vacances. Tu peux couver. Quand tu auras fini de couver, je reviendrai. Je vais aller me détendre, dit la colombe. Non. Que c'est le mâle? Il couve aussi. C'est un travail pour un mâle. Je viendrai juste après l'accouchement. Voulez-vous vous laisser enseigner par les oiseaux? La colombe, c'est un couple qui fait tout ensemble. Et dans l'éducation des petits, on a remarqué que l'un et l'autre sont ensemble et sont d'accord. Et le père n'a pas démissionné. Il sait prendre ses responsabilités. Il y en a tellement qui ont souffert de la démission de leur père dans la famille. C'est la mère qui a toute la charge.
je veux apprendre, Seigneur Jésus, ce que tu m'apprends, ce que tu m'enseignes, par les colombes. Alors, c'est l'image de l'épouse fidèle, c'est l'image du couple heureux, c'est l'image du Saint-Esprit. Vous voyez au baptême de Jean, Jésus qui est dans l'eau et qui prie, le ciel s'ouvre, la voix du Père retentit et une colombe descend sur lui. Le Saint-Esprit sous une forme de colombe. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit apporte la paix. La colombe était la messagère de paix après le déluge. La colombe apporte la simplicité, apporte la fidélité affectueuse. Eh bien, mes amis, dans cette soirée du 10 août, continuons notre étude sur ce thème « Interroge les bêtes, elles t'instruiront », texte tiré de Job, chapitre 12, verset 7. Je voudrais que nous retirions ce soir quelques leçons du lion, le roi des animaux sauvages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le lion est le fauve le plus souvent mentionné dans la Bible. Il l'est pas moins de 130 fois. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas examiner les 130 passages. Nous serions encore là à la fin de la semaine. Le lion, dans les Écritures, est l'emblème de la force destructive. Et il figure dans la parole aussi bien la puissance de Dieu venant en jugement sur le monde que la puissance de qui ? De Satan. Et j'aimerais que nous tirions quelques leçons de cette figure que nous donne le lion, qui est donc un symbole honorable et redouté, mais aussi détesté, suivant quel roi il représente. Puisqu'il est le roi des animaux, il peut représenter parfois dans l'Écriture, donc le Seigneur lui-même, mais toujours alors le Seigneur, redoutable et venant pour juger le monde, alors que la première fois, il est venu en grâce, sous quelle forme ? Un agneau. Il a été l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché du monde et qui donnerait sa vie, qui serait immolé pour notre salut. Mais quand il est question du retour du Seigneur, de la seconde venue du Messie, le Messie nous est présenté comme le lion de la tribu de Judas. Ce lion qui rugit et dont le rugissement fera trembler la terre et mettra une crainte indicible dans le cœur des hommes. Vous vous souvenez que la première fois que Jésus est venu, il a été, selon le prophète Isaïe, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Quand il reviendra en puissance et en gloire, non plus dans la faiblesse, mais dans cette force glorieuse qui saisira d'étonnement tous les peuples et toutes les nations, quand ils le verront. Ce sera
le lion qui vient pour juger la terre. Je voudrais que nous prions. Ô Dieu, notre Père, nous désirons recevoir ce soir encore une instruction de ta parole. Et nous te prions de nous donner des cœurs ouverts, de nous saisir par la puissance de ton esprit et de permettre que ta parole touche nos consciences et nos cœurs. Et que tu continues ton œuvre en chacun de nous, nous rendant propres pour le séjour de la lumière et de la vie où tu nous appelles à entrer. Amen. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, que le lion est mentionné comme le héros des animaux au verset 29 et 30. Nous lisons qu'il y a quatre animaux qui ont une belle démarche. Et le premier que nous trouvons au verset 30, c'est le lion, appelé le héros des animaux. Et il est ajouté qu'il ne recule devant qui que ce soit. Le lion qui ne recule devant qui que ce soit. Et qu'apprenons-nous aussi de lui? Il a une belle allure, il a une belle démarche. Et j'aimerais que vous-même, vous puissiez rechercher quelles leçons nous pouvons découvrir en considérant le lion. Figure alors du Seigneur, revenant en gloire, son allure, sa démarche, elle est belle, la marche de notre Seigneur. L'avez-vous contemplé, marchant ici-bas? Je ne sais pas combien parmi vous ont déjà vu des lions, et surtout des lions en liberté. On est vraiment frappé par la majesté du lion, surtout du mâle. Ce lion qui tient sa tête haute, ce qui lui donne beaucoup de dignité, et je dirais même de majesté. Combien peut vivre un lion? Il vit environ 40 années. On a eu, ma femme et moi, un jour au Kenya, la possibilité d'être à un mètre d'un vieux lion qui dressait sa tête comme cela. C'était quelque chose de magnifique. Et si vous pouviez étudier la vie des lions, de la lionne aussi, des lionceaux, vous recevriez de belles instructions. La lionne, par exemple, on sait qu'elle veille sur ses petits avec beaucoup de soin. Et ensuite, avec leur père, elle apprend à ses petits à chasser. Et on les voit sur le soir qui s'en vont, qui quittent leur fourré pour s'embusquer
le plus possible à proximité d'une source ou d'une mare où ils savent que viendront boire à une certaine heure des antilopes, des gazelles, des zèbres. Et pourquoi se mettent-ils à l'affût tout près d'une source? Parce qu'ils seraient tout à fait incapables de poursuivre une gazelle ou une antilope qui sont beaucoup plus rapides que le lion. Alors le lion vient et il s'embusque là où sa proie va être tout à fait proche et au moment où l'animal se désaltère, le lion bondit et brise la colonne vertébrale de sa proie. Et c'est ainsi que le lion trouve sa nourriture. C'est un grand carnassier. Vous pourriez aussi, si vous les observiez, voir la vie amoureuse du lion et de la lionne. Il en apprendrait à beaucoup de couples. Avant de se donner l'un à l'autre, ils se font des caresses à n'en plus finir. C'est très long. Le lion tourne autour de la lionne, enfin lui fait mille mamours. Ce n'est pas du tout ce que l'on voit souvent ou ce que l'on nous raconte de ce qu'a pu être une vie conjugale. Les lions pourraient en apprendre aux hommes sur la douceur, sur la tendresse. Et pourtant, ce sont des lions qui savent rugir. Le lion est donc le symbole de la force, de la majesté. Mais il a aussi certaines fureurs et quelques cruautés et qui fournissent maintes comparaisons aux auteurs sacrés. Alors, on assimile le lion à Dieu lui-même, je l'ai déjà dit, mais aussi le lion représente les tribus d'Israël. Il y en a au moins trois qui sont comparées à des lions. La tribu de Juda, la tribu de Gad et la tribu de Dan. Le peuple d'Israël aussi, à certains moments, est comparé à un lion. Et je dirais aussi, les ennemis d'Israël sont comparés à des lions quand ils viennent pour attaquer Israël. Ce soir, mon but, c'est simplement de vous donner quelques histoires où nous rencontrons les lions. Est-ce que vous en connaissez beaucoup dans l'Ancien Testament? Qui a dit oui? Daniel, oui. David, Samson, le prophète de Juda, oui, et qui encore? Vous avez presque tout trouvé. Benaïa, un des hommes forts de David, et qui est descendu en hiver dans une fosse et a tué deux lions à lui seul. Et puis, l'apôtre Paul, vous connaissez son histoire de lion? Et puis, l'apôtre Pierre. Ces deux apôtres sont les seuls qui nous parlent de lion. Alors, prenons d'abord le premier que l'on trouve dans l'Écriture, Samson, un homme fort. Et qu'est-ce que nous trouvons dans l'histoire de cet homme fort? Eh bien, on trouve quelque chose
sur quoi je voudrais que vous méditiez. Vous savez que Samson avait été promis à ses parents alors qu'ils étaient déjà âgés et qu'eux aussi n'avaient plus la possibilité d'avoir un enfant. Et ils ont reçu toutes les instructions concernant l'éducation qu'ils devaient faire à cet enfant qui serait dès le ventre de sa mère un Nazaréen. Et au chapitre 14 du livre des Juges, il est dit que lorsque Samson fut devenu grand, il déclara à son père et à sa mère qu'il avait vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins, et selon la coutume là-bas, il dit à ses parents, « Prenez-la maintenant pour ma femme. » Voilà ce qui arrive à tout homme qui devient adulte. Il pense à fonder un foyer. Tout est normal, semble-t-il. Mais son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Il est moderne. « Elle me plaît. Puisqu'elle me plaît, je la veux. » Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel ou était permis par l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Et Samson descendit avec son père et sa mère à Tima. Lorsqu'ils arrivèrent sur les vignes de Tima, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Alors, est-ce que vraiment le Seigneur est avec nous quand le lion vient à notre rencontre? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que peut-être nous ne sommes pas dans une bonne voie? L'Esprit de l'Éternel saisit Samson parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Voilà comment se font les mariages. Elle me plaît et puis elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Tima pour la prendre. Et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours du festin, vous voyez qu'une noce pouvait durer 7 jours. Alors, à Cana, si la noce a duré 7 jours, vous pouvez bien comprendre pourquoi le vin est venu à manquer. Et si vous la découvrez, donc, la solution de l'énigme, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Vous voyez comment on s'amusait pendant cette semaine-là, où l'on festoyait. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors vous avez déjà trouvé. Hein? N'est-ce pas? C'est bien facile, direz-vous. Ah, vous êtes malin. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Mais le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons. Toi et ta maison, la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson pleurait auprès de lui. Vous voyez cette lune de miel, ça commençait dans les larmes. Samson pleurait, la femme de Samson, peut-être aussi il ne l'est pas dit, hein, mais la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai pas même expliqué ni à mon père ni à ma mère. Voilà qu'on met le père et la mère, hein. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours. Que de larmes. Pendant les 7 jours que dura le festin, et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Il lui donna l'explication. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunesse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Alors vous voyez, elle me plaît. Et pour finir, ce n'est qu'une jeunesse. Est-ce que vous n'avez rien à apprendre dans cette histoire? Nous allons passer à une seconde. Je vous laisse vous-même demander au Seigneur de vous instruire. Vous trouvez qu'il n'y a rien dans la Bible qui nous dise quelque chose de personnel? Prenons maintenant l'histoire de David. Dans 1 Samuel 17, verset 37. Il est en face, on l'a déjà cité, il est en face de Goliath, le Philistin, qui insulte l'armée d'Israël. Personne n'ose s'avancer contre le Philistin et le jeune David se présente à Saül. Et Saül doute que cet enfant puisse accomplir un acte de valeur. Et au verset 34 du chapitre 17 de Samuel, nous entendons David dire à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et c'est ainsi que Dieu donnait à ce jeune homme, et qui se confiait en lui, la victoire sur la force du lion. Je passe à la 3e histoire, que vous méditerez vous-même aussi, en cherchant les leçons. Benaïa, 2 Samuel, chapitre 23, verset 20. C'est la liste des hommes vaillants de David. Vous chantez, Dieu cherche encore des hommes forts. Eh bien, parmi ces hommes forts, il y avait un homme qui s'appelait Benaïa, verset 20, fils de Jéhoïada, fils d'un homme de 4 cocktail rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne et il frappa 1 lion un jour de neige. C'était donc en hiver. Et vous savez, on est des fois étonné, on se dit, mais comment est-ce qu'il y a vraiment de la neige en Israël? J'ai vu Jérusalem couverte de neige. Et on peut avoir même très froid à Jérusalem, qui est à 800 mètres d'altitude. Bien oui, on comprend que ce récit est vrai, mais quel courage Benaïa eut pour oser descendre au fond d'une citerne où étaient tombés 2 lions, et il les a vaincus. Prenons maintenant dans le premier livre des rois, je vous les indique les citations pour que vous puissiez retrouver ces récits et méditer tout ce que vous pouvez apprendre du lion. Comment il peut être vaincu, mais aussi comment ce lion peut être lui-même l'instrument dans la main du Seigneur pour accomplir son jugement. Dans le chapitre 13 du premier livre des rois, nous avons cette histoire qui est absolument bouleversante. Un prophète de Juda est envoyé en Samarie vers le roi Jéroboam, qui est impie. Et à ce moment-là, le prophète parle au roi Jéroboam. Et il dit ceci, verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias, qui naîtra plus d'un siècle après. Il immolera sur cet autel tous les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, qu'il avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Et vous continuerez vous-même cette lecture, et vous verrez comment des hommes qui avaient entendu ce prophète de Juda sont retournés dans leur ville et ont trouvé leur père, qui était un vieux prophète, et ils ont raconté ce que l'homme de Dieu de Juda avait vu. Et le vieux prophète a dit à ses fils, « Mais par où cet homme est-il parti ?» Puis on lui a indiqué le chemin.
Alors le vieux prophète a scellé son âne et il s'en est allé, espérant rattraper l'homme de Juda. Et il l'a rattrapé, en effet. Pour quelle raison? Parce que le jeune prophète s'était assis sous un térébin. Il s'était arrêté, probablement pour se reposer, et il était assis sous le térébin. Quand le vieux prophète arrive, il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu de Juda ?»« Oui, je le suis. » »« Eh bien, l'Éternel m'a dit de te faire revenir dans ma maison afin que tu manges avec moi un morceau de pain. » Alors, le prophète de Juda, qui a résisté au roi impie, est un peu ébranlé, mais il lui dit, « Mais ce n'est pas possible, puisque moi j'ai reçu l'ordre de ne pas m'arrêter, de ne pas manger du pain et de revenir par un autre chemin que celui par lequel j'étais venu. » Et le vieux prophète lui dit, « Mais moi aussi je suis prophète. Et un ange m'a parlé. » Et alors, le jeune prophète de Juda s'en va et s'asseye à la table du vieux prophète. Et pendant qu'il mangeait, tout à coup, le vieux prophète lui dit, c'est le verset 20, « Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu t'en es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella son âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré par qui? Par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta auprès de lui. Et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Et vous continuerez vous-même cette lecture. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce récit? La désobéissance. Quand vous avez reçu personnellement une direction du Seigneur, quand même un ange viendrait vous dire de faire autrement, que devez-vous faire? Vous devez rester dans cette conviction et cette certitude que vous avez reçue. Et vous ne devez pas vous laisser ébranler par les conseils que d'autres hommes viendront vous donner soi-disant au nom du Seigneur, et même s'il se prétendait prophète, avec une grande expérience. Si je devais être vieux prophète ici parce que j'ai des cheveux blancs, je demande au Seigneur qu'il me reprenne au plus vite, afin que je ne sois pas pour vos âmes une occasion de chute, comme ce vieux prophète l'a été pour le jeune homme de Juda. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que le lion a accompli seulement la mission qu'il avait reçue, lui, de tuer cet homme. Mais il n'a pas mangé. Et même, il n'a pas mangé son frère, l'âne. C'est tellement beau. Il n'y a aucun danger. Pourquoi est-ce que vous auriez peur du lion? Ce qui doit nous saisir, c'est la crainte. Le lion ne fera qu'exécuter l'ordre du Seigneur. Il ne vous fera aucun mal. Seulement, il peut être employé pour une condamnation. Maintenant, nous arrivons au cinquième récit, Daniel. Daniel, chapitre 6 de son livre. Et là, vous voyez justement aussi la puissance de Dieu sur les lions. Daniel est fidèle, mais comme tout homme fidèle dans sa vocation, il est jalousé par des collègues dans ce royaume qu'il administre au temps du roi Darius. Et vous connaissez ce récit, je le pense, presque par cœur. Nous lisons quand même quelques versets. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à surprendre parce que il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alors, ils se dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » C'était quel pays donc, ce pays où se trouvait Daniel? Oui, c'était la Perse, c'était l'Iran, c'était chez Khomeini. Alors vous voyez ce qui se passait déjà là. Toutes ces jalousies. On est en plein monde moderne. Et alors, que fera Daniel? Comme il avait l'habitude de prier à genoux, la fenêtre ouverte du côté de Jérusalem, il ne changera absolument rien à ses habitudes. Et il n'aura pas peur de cette menace. Il aurait pu se dire, eh bien bon, je m'en vais continuer de prier, mais je ne prierai plus à genoux. Dans mon cœur, c'est pas nécessaire de me mettre à genoux, alors comme ça personne ne saura rien. Et je ne prierai pas à haute voix. Mais comme c'était son habitude avant, il ne changera rien à son habitude parce que ça, c'est son témoignage. Et il fait cela parce qu'il est guidé par une parole, la parole de Salomon qui avait dit dans sa prière lors de la dédicace du temple, quand ton peuple, à cause de ses péchés, sera exilé dans une terre lointaine, ô Dieu, écoute et pardonne. Si quelqu'un te prie en tournant sa face vers ce lieu, écoute, pardonne et réponds. Et Daniel, fort de cette parole de Salomon, tous les jours priait de cette manière. Et il a continué. Alors, vous connaissez la suite. On l'a surpris, on l'a dénoncé, et le roi, la mort dans l'âme, est obligé d'exécuter la sentence, tout en lui disant, est-ce que peut-être ton Dieu pourra te délivrer de la gueule des lions? Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Vous voyez qu'un roi est obligé de se soumettre à sa propre loi à cause de ce fameux décret. Et on apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Ça vous fait penser à quoi, ça?
quand Jésus a été enseveli, on a mis aussi une pierre et les scellés. Le roi la scella de son anneau, de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et le roi se rendit ensuite dans le palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse des lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai fait aucun mal. » Alors, très joyeux, le roi le fait délivrer et l'on jette dans la fosse qui se... qui l'avait livré. Et qu'arrive-t-il? Ils ne sont pas au fond de la fosse, que les lions les ont déjà dévorés. Voilà un Dieu qui ferme la gueule des lions, qui empêche les lions affamés de dévorer Daniel, et qui ensuite mange les ennemis de Daniel. La puissance de Dieu sur les lions. On n'avait pas à craindre les lions. Et j'arrive à Paul. Paul, lui, est prisonnier à Rome. Et il dit ceci dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 17. Disons plus le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Qui est le lion? C'est Néron. C'est l'empereur Néron qui est appelé le lion. Vous voyez que le lion peut aussi servir d'emblème pour représenter la puissance royale qui détruit. Et c'est ainsi que je passe à Pierre, le dernier exemple, et j'aimerais que vous le méditiez vous-même aussi, chapitre 5. Que dit l'apôtre Pierre? Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. On lira depuis le verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et comment pouvons-nous vaincre cette puissance de Satan, qui est comme un lion redoutable? Résistez-lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez. Vous n'avez pas à avoir peur de Satan, le lion redoutable, le lion rugissant. Vous avez à vivre avec celui qui a vaincu non seulement le péché, la puissance du monde, mais qui a vaincu Satan. Bien que ce soir, vous puissiez retenir quelques leçons de ces lions, vous souvenir de la démarche du lion, de son courage, de sa force. Et vous souvenir que le lion est l'animal aussi qui se laisse dominer par son Créateur et dont les petits, les lionceaux, s'attendent encore à leur Créateur pour recevoir la nourriture et puis méditer aussi sur la manière de résister à l'ennemi, à Satan, quand il se présente sous cette forme du lion rugissant. Et puis, soyons les uns et les autres de ceux qui connaissent celui qui a été l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde et qui maintenant savent que ce Jésus qui revient, reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Mes amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour une dernière heure sous le regard du Seigneur, à la fin d'une semaine où il a voulu nous parler à chacun de nous d'une façon précise, et nous voulons croire que nous avons entendu sa voix et que nous n'avons pas endurci nos cœurs. Et ce soir, qui est notre dernier soir pour plusieurs, nous voulons lui demander qu'il nous parle encore avec sa voix et que nous puissions...